tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir, les chemins de traverse de Léon Gontran. Damas, le troisième homme, pas forcément le dernier ou le moins bon, du trio de la négritude avec, on le sait bien, Césaire et Senghor. Damas auquel Roland Brival consacre un roman autour d'un séjour plus ou moins fictif à New York en 1938, au moment de l'essor des luttes pour les droits civiques des Noirs, une manière de redonner sa vraie place à Damas dans la poésie et dans les luttes. C'est une fiction, c'est un roman qui nous rassemble ce soir donc avec Roland Brival, Nègre de personne.
Savoir vivre pour Étienne Zabulon. On ne baille pas chez moi comme ils baillent chez eux avec la main sur la bouche. Je veux bailler sans tralala le corps recroquevillé dans les parfums qui tourmentent la vie que je me suis faite de leur museau de chien d'hiver. De leur soleil qui ne pourrait pas même tiédir l'eau de coco qui faisait glou-glou dans mon ventre au réveil. Laissez-moi bâiller, la main là sur le cœur, à l'obsession de tout ce à quoi j'en un jour, un seul, tourné le dos.
Suis-moi, moi, tout seul qui dans la misère.
La voix de Léon Gontran. Damas.
Ah, ça, c'est une émotion.
C'est la première fois que vous l'entendez
aussi clairement, parce que sur les documents, sur les choses qu'on trouve sur le net, voilà. Mais là, je ne sais pas, vraiment, c'était très étrange et merveilleux.
Et puis, les parfums qui tourmentent la vie. Oui. C'est tellement aussi le personnage dont on va parler maintenant de votre roman, Le Nègre de personne. Hein, Roland Brival, un mot sur vous. Vous êtes romancier, quoique vous êtes un romancier rare depuis quelques années. Vous êtes musicien, vous êtes plasticien, vous êtes libre.
Libre sur la base d'une très grande discipline, parce que sinon on n'y arrive pas.
Alors vous revenez donc avec ce livre que d'ailleurs, en vous lisant, j'ai pris pour une sorte d'essai maquillé en roman. Et puis, chemin faisant, je me suis rendu compte, comme un certain nombre d'autres journalistes, d'ailleurs, ont omis de le faire, qu'il s'agissait d'un roman, parce que c'est très véridique. Donc, un mot de l'argument de l'époque et de ce qui se passe. Léon Gontran Damas, à New York, en 1938.
Voilà, il a 27 ans, il décide de... Césaire vient de quitter Paris pour aller s'installer en Martinique, où il acceptait un poste de professeur de français au lycée Schœlcher. Senghor est dans ses études à l'Institut Oriental, etc. Et donc lui décide, dans un moment comme ça de trouble, de doute, d'aller se confronter aux intellectuels de New York, dont il a rencontré un certain nombre de représentants à Paris, dans les salons littéraires parisiens. Voilà.
Alors, vous retracez, puisque cette histoire est fictive, toute une époque, on va en parler tout à l'heure, puisqu'il va rencontrer des personnages phares qui sont Dubois, le fondateur de la fameuse NAACP, Dubois. Il va rencontrer Billie Holiday, enfin je ne veux pas dévoiler trop le livre. Alors peut-être un mot tout de même de ce point de départ avec ce trio Senghor, Césaire, Damas, puisqu'il est vraiment au cœur du récit. Donc voilà, ils viennent tous les trois de ce que Gilroy appelle l'Atlantique noir, puisque Césaire vient de Martinique, Damas vient de Guyane, et Senghor vient du Sénégal. Et ils vont converger, et ça va donner ce fameux triangle.
Et alors, évidemment, aujourd'hui, on ne retient le plus souvent que les deux figures tutélaires, c'est-à-dire Césaire, le premier, pour ce cahier du retour au pays natal, Senghor, parce qu'il a eu aussi un destin politique qui lui a laissé une place dans l'histoire. Mais Damas, on l'a retenu beaucoup moins, pour des tas de raisons. L'une des premières, c'est que c'est un personnage en lui-même. C'est un personnage, j'allais dire, rimbaldien. C'est le Rimbaud noir. parce que la poésie, il la vit dans sa chair, dans sa vie, dans son comportement.
Donc il n'est pas dans des plans de carrière.
Non, absolument pas.
On ne va pas être méchant avec les autres, mais ils ont bâti leur carrière, les deux autres.
Disons qu'ils sont... ils ont une espèce de formatage un peu plus conventionnel, voilà. Donc, ils sont dans les roues, dans les rails, et ils tracent un chemin à travers une révolte intérieure, mais qui ne bouge pas d'un iota sur le plan social.
Alors un chemin d'excellence, avec des honneurs.
Voilà. Alors que Damas, lui, est presque un vagabond. Dans la mesure en plus où il va connaître quelques accès au niveau de l'alcool, au niveau de... C'est un homme qui vraiment s'est installé en face de la vie, la prise en pleine figure et l'assume, tente de l'assumer d'une manière plus ou moins chaotique d'ailleurs. Et c'est dans ce chaos que se forme sa liberté de penser, son espèce d'inconvenance lorsqu'il est capable d'interpeller les autres et de leur dire « voilà, tout le monde vous respecte, tout le monde prétend que votre parole est la meilleure ». Mais je voudrais quand même vous dire deux ou trois petites choses, parce que tout cela, on l'a fait ensemble, et qu'il est hors de question que vous oubliez que j'existe. Il est l'épine un peu dans leurs pieds, et un rôle salutaire.
Oui, oui, c'est une figure incandescente.
Tout à fait.
Alors, il est remonté à la surface, il y a de ça combien 2 ans, lorsque Christiane Taubira, à l'Assemblée nationale, de mémoire, oui, a cité, et avec une fougue incroyable, mais ce poème magnifique, dont on se souvient et qu'elle a extrait quelques mots, « Nous les gueux, nous les peu, nous les maigres, nous les nègres ». Et là... coup de poing dans l'estomac.
Ah,
hein,
oui, ah oui, et c'est là tout à coup qu'on découvre la modernité de Damas. Parce que la langue césarienne, qu'on le veuille ou non, en dépit du fait qu'elle soit absolument magnifique et inimitable, elle s'inscrit quand même dans un contexte d'histoire. La langue de Saint-Gore, c'est une langue très classique, d'une veine presque helléniste, je dirais, qui, elle aussi, a un côté un peu daté, même si la chose peut être belle. Alors que Damas, un type qui, dans ces années-là, démarre sa carrière de poète, si carrière il y a, par un recueil comme Pigment, ou par...
Publié à compte d'auteur. Incroyable, en 37.
Préfacé par Desnos, excusez-moi du peu, et qui ensuite va renouveler l'affaire avec ce poème, avec ce titre en...
Graffiti ?
Non, l'autre en anglais. J'ai tout à coup une espèce de...
Vous avez un doute ?
De trou de mémoire.
Je ne peux vous aider. Là.
Non, pas du tout, mais ça me reviendra. Toujours est-il que j'ai rencontré quelques universitaires américains qui m'expliquaient, par exemple, que lorsqu'ils voulaient aborder avec leurs étudiants le chapitre de la négritude, ils avaient toujours des problèmes. Parce que, justement, la langue de Césaire est un peu hermétique. Quand on ne la connaît pas, quand on ne connaît pas le contexte même dans lequel ce poème se déroule, il est difficile d'en percevoir toutes les nuances. Quant à Saint-Gore, bon, ça les ennuie un peu, ces jeunes étudiants parfois de San Francisco, de tous ces endroits qui sont là plongés dans le monde du rap, et qui tout à coup, lorsqu'ils entendent le vers de Damas, s'identifient instantanément à sa parole, parce que cette parole est déjà presque à la naissance d'une forme de poésie orale. Il est resté dans l'oralité, plus que tous les autres, qui ont beaucoup écrit. Lui écrit aussi, mais il écrit une voix qu'il entend, une voix qu'il redonne, et c'est là, je pense, que ce qui fait que sa poésie est restée complètement liée au contexte de l'époque moderne, parce qu'elle s'inscrit dans toute cette parole qui se développe sur les ondes, avec ces jeunes artistes qui ont des choses à dire et qui les disent sans prendre de précautions particulières.
Chemin de traverse de Léon Gontran Damas. Nous sommes en compagnie du romancier Roland Brival qui publie Nègre de personne. On entend Dizzy Gillespie, Roland Brival, en vous lisant, puisque ça se passe ce roman à New York, donc à la fin des années 30. Eh bien, Dizzy Gillespie était déjà à l'œuvre, il était tout jeune,
il le
croise, il est censé le croiser dans votre fiction.
Absolument, et il est tout à fait. Il s'est installé dans ce club de jazz parce qu'il y avait une soirée là. Et il a sorti ses feuilles, son carnet de notes avec un stylo, dans l'idée éventuelle de se laisser porter par l'inspiration lorsqu'il entendrait un peu tous ces grands musiciens improviser. Et brusquement, arrive au milieu de tous ces gens qui jouent d'une façon, on va dire, un peu conventionnelle, le jazz qu'on connaît, le bebop. Et tout à coup, il voit arriver ce jeune gamin qui, avec cette trompette, obtient des notes suraiguës et joue d'une façon qui n'a rien à voir avec ce que font ses collègues. Donc là, il est tétanisé. Parce que pour lui, entre la poésie et le jazz, il y a des passerelles évidentes. Et l'émotion qu'il reçoit du jazz est la même que celle qu'il reçoit de la poésie. Et il va d'ailleurs s'inscrire dans cette filière d'inspiration. De plus il avancera dans Harlem et plus il va s'accorder avec ses notes de jazz et les poèmes qui s'enchaînent au fur et à mesure où il fait son voyage.
Il parle d'ailleurs dans un poème de l'âcre odeur de sang jaillissant de toute trompette bouchée.
Absolument. Et d'ailleurs, il possédait lui-même un trombone à piston et il en jouait de temps en temps. Bon, c'était pas un grand,
il était aussi un
grand
musicien.
Voilà, mais en tout cas, il était très...
Alors les raisons de ce voyage, donc qui est un voyage fictif, mais qui va vous permettre de brosser le portrait de ce Harlem à l'époque de ce qu'on appelait la Harlem Renaissance.
Absolument.
Et surtout à l'époque de l'essor du mouvement pour les droits civiques, qui mettra quand même du temps à aboutir, parce que c'est un mouvement qui va vraiment gagner une assise très large dans les années 50 pour aboutir à la fameuse loi sur les droits civiques. Hein, ça va prendre du temps, c'est presque 30 ans plus tard, la loi de 63. Qui sera en application en 65. Ça prend du temps, tout ça.
Absolument. Mais lui, en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se rendre compte de ce qui se passe sur la planète, même au niveau de cette problématique. Au moment où on est en train d'inventer la négritude à Paris, de l'autre côté de cet Atlantique, aux États-Unis, on invente la Harlem Renaissance qui a été inventé bien avant, en fait, en réalité. La négritude s'est inspirée, quand même, de la rencontre de quelques grands écrivains américains qui sont venus traîner à Paris à une époque, et il y a eu des croisements, Langston Hughes et compagnie, tous ces gens-là sont passés à un moment ou à un autre. Et,
que vous lui faites croiser, d'ailleurs,
Langston
Hughes.
De nouveau, à son retour à New York. Et des gens comme McKay, par exemple, qui a publié ce roman qui s'appelle Banjo, c'est ce trio qui s'est un peu démené pour que le bouquin puisse être traduit et publié en France, etc. Donc il y a eu des échanges. Mais aller voir sur place, c'est quand même mieux que de se laisser conter les histoires par ce qu'on rencontre. Donc il se décide à aller là-bas et il va effectivement recevoir une gifle dès le premier jour de son arrivée. Parce qu'il sort du port, le paquebot l'a déposé, voilà, il part avec sa cousine qui l'emmène et il se retrouve dans un bus. Et il voudrait s'asseoir normalement dans un bus comme il le fait à Paris.
Et là,
il se rappelle soudain
que back of the bus,
parce qu'il est noir. Et là, c'est une gifle terrible parce que rien ne vaut ce type d'émotion pour comprendre la problématique. Alors, il va continuer malgré tout. Il va laisser derrière lui cet aspect négatif des choses pour se plonger dans la culture qui a été inventée par tous ces gens de New York. Notamment, une visite dans une simple librairie va lui permettre de comprendre qu'il est carrément dans la Mecque du monde noir, comme il le dit lui-même, dans la mesure où, alors qu'à Paris, il n'existe absolument aucun magazine concernant les Noirs et leur culture, là-bas, il y en a des dizaines sur les étagères, sans parler des romans, des essais qui sont faits par des universitaires très sérieux. Donc, il est absolument ébloui.
Alors, il va tous les rencontrer, ces grandes figures, soi-disant, pour proposer un colloque à Paris. On sent bien que c'est un argument. Alors, il va rencontrer, donc, notamment ce fameux Dubois, qui est le fondateur de la NAACP, qui a joué un rôle si important, National Association for the Advancement of Colored People. On est obligé de association pour l'avancement des gens de couleur. D'ailleurs, c'est un terme qu'aujourd'hui, on n'utiliserait plus, mais ça va va jouer un rôle très 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 important. Il va entendre beaucoup parler de Marcus Garvey, car à l'époque, alors ce qu'on apprend aussi qui est très intéressant dans ce roman, c'est à quel point ce milieu militant noir à New York dans les années 30 est divisé en factions, en clans ennemis.
Et justement, il y a deux grands clans qui s'opposent en quelque sorte, celui de la NAACP dont vous venez de parler, et celui représenté par Marcus Garvey qui a fondé un mouvement qui s'appelle l'UNIA. Et qui est lui...
qui prône le retour en Afrique.
Voilà, hein. Un mouvement totalement radical qui refuse l'intégration, qui refuse toute forme d'assimilation à une culture blanche américaine et qui voudrait qu'un pouvoir à la fois politique et économique s'installe dans le pays et qui en plus défend, effectivement, prône la thèse du retour en Afrique pour aller refonder là-bas un nouveau peuple, une nouvelle civilisation. Et puis en face... On a la NAACP, dont les promoteurs disent que la seule solution, en fait, pour l'homme noir, c'est justement au contraire de s'intégrer dans le système, mais de s'intégrer par le mérite, par l'étude, par le travail. Donc, il faut absolument qu'il y ait des universités, que tous les noirs puissent apprendre des choses pour pouvoir, pouvoir s'asseoir d'égal à égal à la table du monde. Alors, ces deux partisans, effectivement, se font un peu la guerre.
Et c'est là que Damas va découvrir, au fond, ce qui sera sa voix à lui, qui serait une sorte de troisième voix, et qui fait peut-être, c'est ce qu'on comprend en vous lisant, que Damas est peut-être une voix pour maintenant, puisque lui, il parle des trois fleuves qui sont en lui, puisqu'il est, par ses origines guyanaises, à la fois blanc, noir et amérindien. Et donc, à ce moment-là, il va refuser à la fois l'effort vers le mérite que propose Dubois. Il va refuser implicitement déjà la négritude dans son côté essentialiste qui est prôné par Senghor et par Césaire. Et il va essayer, d'aller vers une idée de la mixité universelle. Qui parle à aujourd'hui beaucoup mieux finalement que les autres thèses.
Il pose un mot que les autres ont mis à l'écart, mais qui est le mot de métissage. Parce qu'au fait, pourquoi aussi ce voyage aux États-Unis ? Ça permet de découvrir que pour les Américains, être noir, ça veut dire avoir une goutte. Une simple goutte de sang noir dans votre ADN.
C'est la théorie de la tasse de thé.
Voilà. Hein. Et vous êtes déclaré noir. Alors que il est bien évident qu'en France, les choses sont tout à fait différentes. Les nuances, il y a tout un vocabulaire de nuances colorées qui s'est installé en place et qui est aussi dû au fait qu'on reconnaisse ces différentes appartenances de droite ou de gauche. Donc, la négritude, elle s'installe comme posture de combat dans un moment où les choses sont exacerbées et où il faut absolument rassembler deux camps qui soient nets pour qu'on puisse faire évoluer le système. Mais en réalité, cette posture de combat, elle n'est tout à coup plus opérationnelle à partir du moment où les conditions historiques changent. Et c'est là que surgit effectivement Damas, parce que lui, ce qu'il pose, c'est un concept qui va résister au temps et à l'histoire, et qui va nous proposer aujourd'hui une vision beaucoup plus harmonieuse, poétique, et finalement viable de ce qui nous attend sur la planète, là, aujourd'hui.
Universelle aussi.
Maintenant, une manière... Oui, quand je dis la planète, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se reconnaître les uns les autres, et de s'accepter dans toutes nos
variantes.
Et de reconnaître, une autre chose, c'est un petit détail, mais de reconnaître que le métissage ne concerne pas simplement un problème de race, ça concerne aussi un problème de culture. Nous sommes d'ores et déjà tous métis. Ici, par exemple en France, le nombre de gens qui écoutent, je ne sais pas, de la musique cubaine, qui aiment la cuisine chinoise, qui vont s'habiller, bon, donc... Tout ça participe à un vaste mélange dans lequel notre intelligence n'a que le choix de s'investir. Pourquoi choisir un camp plutôt qu'un autre alors que nous sommes capables d'englober l'univers?
Thank you very much, ladies and gentlemen. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Bear strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
On a des scrupules, Roland Brival a parlé sur cette voix absolument bouleversante de Billie Holiday. Strange Fruit, une chanson contre la ségrégation. Blood on the leaves, blood at the root. Un arbre sur lequel pendent
des fruits étranges.
Des fruits étranges qui sont des hommes noirs, lynchés. Voilà. Billie Holiday, Damas, dans votre roman, on insiste sur le fait que c'est un roman, oui, rencontre.
Absolument. Qu'il rencontre, et là c'est une rencontre pour lui qui est totalement magique en définitive. Il va l'avoir à un concert, introduit par la compagne qu'il s'est trouvée à New York, qui est une jeune femme tout à fait exceptionnelle, et elle l'emmène voir Billie Holiday en concert, et il en ressort ébloui naturellement, et voilà que quelques jours plus tard, il la croise dans la rue, alors qu'elle marche là, elle rentre à son hôtel, et il ose l'aborder. Et c'est alors qu'elle lui propose de l'accompagner parce qu'elle se sent un peu dizzy. Voilà, elle a peut-être vu un petit verre de trop, quelque chose de ce genre. En tout cas, elle n'est pas saoule, mais...
Mais elle va lui proposer quelques produits, quand même.
C'est-à-dire qu'elle ne lui propose rien, en fait. C'est les compagnes... Quand elle l'amène dans cet hôtel, où il va revenir pour essayer de la voir, etc., il la découvre la deuxième fois en compagnie de deux types qui sont de vrais marlous, eux,
Il y en avait quelques-uns qui gravitaient autour de Billie.
Absolument. Mais Billie, à l'époque, d'ailleurs, dans le roman, on voit qu'elle le protège et qu'elle fait tout pour qu'il ne rentre pas, qu'il ne connaisse pas ce type d'initiation, parce qu'elle en connaît le danger, et que, voilà, c'est pour elle, c'est le petit Frenchie, même si elle est pratiquement plus jeune que lui, d'ailleurs, mais d'un an. Mais, en fait, Billie porte en elle toute l'incarnation de l'âme humaine, de l'âme féminine, notamment. Et il reconnaît dans la voix de cette femme qui chante du blues le même accent que celle des femmes de la Guyane lorsqu'elles chantent des lamentos ou qu'elles chantent des chants traditionnels, puisque là-bas en Guyane, ce sont essentiellement des femmes qui chantent dans la tradition des tambours.
Et avec Billie, il reconnaît aussi quelqu'un qui a des tensions intérieures qui sont aussi les siennes. Damas...
Qui sont celles qu'il va rencontrer quelques années plus tard.
Voilà qui ne sera pas lui inscrit dans le parcours tout tracé.
Tout à fait.
Et il va rencontrer pas mal d'autres personnes, donc dans le contexte de Harlem, incroyablement foisonnant, et où il y a beaucoup de ces personnalités comme ça, atypiques, et très, très soumises à des tensions qui consomment beaucoup d'alcool.
Oui, c'est-à-dire qu'il se rend compte, en fait, que vivre une telle oppression, là, au quotidien, c'est-à-dire se voir interdit d'entrer dans certains restaurants, se voir interdit d'entrer dans certains clubs de jazz, alors que les groupes qui jouent dans les clubs de jazz sont des groupes composés de musiciens noirs.
Et que le vigile est noir.
Et que le vigile est noir et on ne peut pas y entrer. Je veux dire, ce sont des choses qui finissent quand même par créer de profonds malaises. Et donc, l'alcool et la drogue sont évidemment liés à toute cette évolution. Et Billie étant quelqu'un d'à la fois fort et fragile... Il est normal qu'elle se soit embarquée là-dedans. Et lui, il le sent parce qu'il a effectivement, comme vous dites, une espèce de résonance d'âme avec elle. Et la tragédie qu'elle est en train de vivre, d'une certaine façon, il la retrouvera dans sa propre vie quelques années plus tard.
Il reste combien de temps dans votre roman à New York? Une année à peu près?
Environ un peu moins d'une année, voilà. Quelques mois.
Thank you. Voilà, Léon Gautran en Damas, à New York, dans les années 38-39. Il n'aurait pas pu entendre Miles Davis, mais ce titre s'appelle, on le sait bien, Milestones, avec Coltrane. Mm-hmm. Hein, on retrouve aussi cette trompette bouchée dont on parlait tout à l'heure. Alors, l'itinéraire de Damas, par la suite, et là, l'itinéraire vrai, puisqu'on va sortir de la fiction, est un itinéraire aussi un peu imprévisible.
Oui, mais disons que dans les grandes lignes, ce qu'il découvre, notamment à New York, c'est que ces mouvements organisés pour la cause des Noirs sont très inscrits dans le monde social et politique. Il y a là-bas des mots d'ordre qu'on n'a jamais entendus à Paris. Par exemple, si telle grande compagnie refuse d'embaucher des Noirs, eh bien nous n'achèterons pas leurs produits. Et du coup, l'entreprise panique parce que, effectivement, son chiffre d'affaires s'en trouve affecté. Mais il découvre que là, il y a quelque chose à faire, parce que la poésie ne peut pas suffire à modifier les comportements à la fois mentaux, physiques et sociaux. Donc, il pose cette question, il la met sur la table, et elle va se révéler juste, parce que par la suite, ils vont tous s'embarquer dans un mouvement autour du Parti communiste français, ils vont essayer de créer une résonance, et il va, lui aussi, alors qu'il sait qu'il n'est pas le plus doué pour entreprendre ce genre de carrière, va aussi tenter et réussir.
Il va débuter pendant quelques années,
mais il va vite déchanter et retrouver le monde universitaire qui est quand même celui qui lui sied le mieux. Mais il a repéré chez Césaire cette capacité à la fois charismatique de leader et cette capacité...
À rentrer dans le rang quand
même. De compromission, on va dire, en quelque sorte. Et donc il l'interpelle là-dessus.
Parce que lui ne veut pas devenir un notable, au fond. Non, c'est un peu à son corps défendant qu'il devient un député, un homme public.
Il le fait parce qu'il faut le faire, les circonstances historiques l'imposent. Sinon, on se retrouverait avec des porte-parole qui n'auraient pas la force requise pour nous défendre. Mais le plus rapidement possible, il va se débarrasser de tout cela. D'ailleurs, pendant le régime de Vichy, il y a eu des autodafés sur les œuvres de Damas. Ça n'est jamais arrivé ni à Césaire ni à
Saint-Gor. Seulement Damas.
Pas seulement Damas, mais dans ce mouvement-là, il avait écrit notamment toute une série de chroniques sur la Guyane, dans lesquelles il faisait part de ses véritables sentiments sur le pays, sans tenir compte de la situation politique. Et il s'est retrouvé avec on a rassemblé des ouvrages sur la place publique, on y a mis le feu. Donc c'est quand même quelqu'un de caractère et qu'il est vraiment intéressant de suivre dans ces années un peu agitées.
Et qu'il faut lire, les poèmes de Damas sont tous accessibles aujourd'hui.
Un livre dont je cherchais tout à l'heure le titre et qui m'est revenu, c'est Black Label.
Black Label.
Alors, dans les années de guerre, sortir un recueil de poèmes qui s'appelle Black Label, c'est quand même quelque chose de complètement, de résolument moderne.
Alors lisons Damas et puis lisons Nègre de personne, donc ce roman que vous signez Roland Brival et qui est paru chez Gallimard. Dans quelques jours, il faut signaler le 10 mai, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Ça veut dire qu'on va parler dans les écoles de cette question qui autrefois était occultée. Et puis je voudrais signaler deux petits livres très précieux. Dans le registre des questions que nous avons abordées, Le rire enchaîné, petite anthologie de l'humour des esclaves noirs américains, paru aux éditions Anacharsis. Donc, la sagesse de l'opprimé, les gens de peu, comme dit Damas. Et puis, Denethem Tuambona, fugitif ou courtu, ça vient de paraître aux presses universitaires de France et c'est un éloge du marronnage et de la fuite comme sauvegarde face à tous les profilages, les traçages, marketing et policiers, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et puis, sans oublier aussi, parce que les commémorations, c'est bien, sans oublier les esclavages modernes, parce qu'on aimerait bien aussi qu'il y ait une commémoration de ce côté-là.
Absolument, je partage tout à fait votre point de vue.
Voilà. Voilà, on finit avec Cab Calloway, Copper Colored Girl, qui apparaît d'ailleurs, Cab Calloway, dans votre roman, Roland Brival. Pour terminer, donc, Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son Michel Mestre, à la réalisation Olivier Bétard. Tout un monde, c'est chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, une émission proposée par Marie-Hélène Fraissé. Sur France Culture, où nous retrouvons maintenant Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.
Copper colored gal of mine, I love the country so divine. Saying you always be my clinging vine, copper, 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 copper colored gal of mine. You've done something to my heart, you've upset my apple cart. Tell me honey when the moon will shine, copper colored gal of mine. Oh gee, sweet as can be, you're racing with me. I mean aces high, oh my, you know why. Come on honey, name the day, the wedding band is on its way. Life with you will always be divine, you're coming, you're coming, you're coming, you're coming.